Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 1er octobre 2014. En direct de Washington, Idriss Assedoudia et Georges Léonard Sagno. Bonjour Georges.
Bonjour Doyen, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition,
premier cas d'Ebola diagnostiqué aux États-Unis, un Texan qui a été infecté au Libéria.
Un groupe de putschistes amnistiés par le président Bissau-Guinée.
Ouverture aujourd'hui à Beni, dans le nord Kivu, du procès Mamadou Ndala.
En Algérie, les autorités disent avoir identifié des auteurs de l'enlèvement et de la décapitation du français Hervé Gourdel.
En Libye, les milices en charge à Tripoli et Benghazi dénoncent le dialogue initié par l'ONU pour mettre un terme au chaos.
À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie campent sur leur position pendant que les autorités célèbrent le 65e anniversaire de la Chine communiste.
La Grande-Bretagne a mené hier ses premières frappes aériennes contre des cibles de l'État islamique en Irak.
Et ne manquez pas la musique de Roger Montou et les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Les autorités médicales américaines ont diagnostiqué le premier cas d'Ebola aux États-Unis. Les précisions d'Henri Francisque.
Le docteur Tom Frieden, directeur des CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, a confirmé hier que le virus a été détecté chez un patient qui a été infecté au Libéria. Il a commencé à révéler des symptômes plusieurs jours après son arrivée à Dallas, au Texas, le 20 septembre dernier. L'homme, qui n'a pas été identifié, a été admis à l'hôpital Health Presbyterian du Texas et soumis à un isolement strict. Les autorités essaient de déterminer qui pourrait avoir été en contact avec lui. Plus vraisemblablement, des amis ou membres de sa famille. Selon ces autorités, aucune des personnes à bord de l'avion qu'il a pris pour les États-Unis n'est en danger. Le docteur Frieden des CDC s'est voulu rassurant. Il a en effet déclaré « Je n'ai aucun doute que nous contrôlerons l'importation de ce cas d'Ebola pour l'empêcher de se propager largement dans le pays. » Bien que des agents américains de la santé diagnostiqués en Afrique aient été transportés par avion aux États-Unis pour traitement, le Texan est le premier patient à être diagnostiqué ici même aux États-Unis. Le président Barack Obama a lui-même discuté des méthodes strictes d'isolement des CDC avec le docteur Frieden. Il a qualifié l'Ebola de priorité en matière de sécurité nationale et il a exhorté le reste du monde à considérer aussi le virus comme une menace. Le Pentagone a annoncé hier qu'il envoyait 700 soldats américains au Libéria pour aider Monrovia à faire face à l'épidémie. Ses membres du génie militaire aideront également à construire des centres de traitement. Mais aucun personnel militaire américain ne fournira directement des soins aux patients de l'Ebola.
Les audiences publiques de victimes et bourreaux d'une décennie de crise en Côte d'Ivoire, qui avait débuté il y a 3 semaines à Abidjan, ont pris fin mardi, a annoncé le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Jean-Roger Bion.
80 personnes auront au total été entendues depuis le 8 septembre, selon Charles Conan Bani, le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Faute de couverture médiatique, les témoignages n'ont pas eu l'écho et l'effet souhaité en Côte d'Ivoire. Selon l'AFP, les témoins ont accusé indistinctement les soutiens au précédent régime de Laurent Gbagbo et les hommes qui ont porté l'actuel président Alassane Ouattara au pouvoir. « J'ai terminé le plan d'action que j'avais donné au chef de l'État », a dit Charles Conan Bani, qui a ajouté que le mandat de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a pris fin dimanche dernier. Le dispositif ivoirien s'inspirait du modèle de justice dite transitionnelle, instauré en 1995 par Nelson Mandela à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud.
Le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, a amnistié un groupe de soldats reconnus coupables d'une tentative de coup d'État en 2012, dont le meneur Pansau Nyachama. Il dirigeait les soldats qui avaient attaqué des casernes de l'armée pour tenter de prendre le pouvoir avant la tenue du second tour de l'élection présidentielle.
Le président Vaz a déclaré hier qu'il s'agissait d'un geste de pardon et d'encouragement dans le cadre des efforts faits pour réconcilier toutes les factions dans ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest caractérisé par l'instabilité. La Guinée-Bissau a connu en effet plusieurs putschs et tentatives de coup d'État depuis son indépendance il y a 40 ans.
En Algérie, le ministre de la Justice dit que les autorités ont identifié certains membres du groupe islamiste qui a enlevé et décapité la semaine dernière le français Hervé Gourdel, un guide de haute montagne. Monsieur Taïb Lou n'en a pas dit plus lors de l'annonce qu'il a faite à ce sujet hier à la télévision algérienne.
Hervé Gourdel avait été enlevé le 21 septembre dernier par une branche dissidente d'Al-Qaïda qui a fait acte d'allégeance à l'État islamique en Syrie et en Irak. Il a été décapité après que la France eut rejeté l'ultimatum du groupe qui avait donné 24 heures à Paris pour arrêter ses raids aériens en Irak dans le cadre de la campagne menée par les États-Unis contre les militants islamistes. Hier, le soi-disant Jeune Al-Khalifa, ou soldat du califat, a publié une vidéo montrant des dizaines de ses membres qui faisaient serment d'allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, leader de l'État islamique.
En Libye, les milices qui contrôlent Tripoli et Benghazi ont dénoncé hier le dialogue lancé la veille par l'ONU en vue de mettre fin à l'anarchie institutionnelle. Idriss Fall.
L'ONU a réussi lundi à réunir pour la première fois des députés libyens rivaux. À l'issue de cette réunion, ils ont lancé un appel à un cessez-le-feu sur tout le pays. Hier, Fajr Libya, qui contrôle Tripoli, a répondu qu'elle continuait ses opérations militaires. Cette coalition a déjà formé un gouvernement parallèle. Toujours à Tripoli, le Parlement sortant, dont le mandat a théoriquement expiré, a repris ses travaux. À Benghazi, deuxième ville du pays, les combattants du Conseil de Shura, une autre coalition qui comprend les djihadistes d'Ansar al-Sharia, ont rejeté ce dialogue qui, selon eux, n'est pas fondé sur des bases justes. Dar al-Ifta, la plus haute autorité religieuse du pays, a de son côté réclamé la suspension du dialogue, dénonçant les décisions dangereuses du Parlement de Tobrouk. Dar al-Ifta avait clairement appuyé les opérations de Fajr Libya à Tripoli et celle des islamistes à Benghazi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Hong Kong, les autorités ont célébré aujourd'hui le 65e anniversaire de la fondation de la Chine communiste. Pendant que persiste l'impasse entre les leaders de la ville et les dizaines de milliers de manifestants qui réclament de plus grandes réformes démocratiques. Ils sont en colère contre les restrictions imposées par le gouvernement pro-Pékin sur les élections de 2017. Les cérémonies de commémoration se sont déroulées sans incident, bien qu'on ait entendu, non loin de l'endroit où se tenaient les huées des étudiants, quand l'hymne national chinois a été joué. On n'a pas signalé de violence depuis dimanche quand la police a usé de gaz lacrymogène sans succès contre les protestataires qui continuent de camper sur leur position.
La Grande-Bretagne a mené ses premières frappes aériennes contre des cibles de l'État islamique en Irak. Le ministère de la Défense a confirmé l'information hier, Jacques Aristide.
Des avions de chasse britanniques ont bombardé un poste d'armement lourd qui menaçait les forces kurdes avant d'attaquer un pick-up armé de l'État islamique en territoire irakien, a indiqué le ministre britannique de la Défense Michael Fallon. Deux attaques qui interviennent après le feu vert donné vendredi par les députés à une intervention militaire de la Grande-Bretagne au sein de la coalition menée par les États-Unis et qui comprend des militaires arabes et européens. Quant aux combattants kurdes en Irak, soutenus par l'armée irakienne et la coalition internationale, ils ont également attaqué hier des positions des djihadistes. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, la campagne aérienne s'est aussi poursuivie d'après le commandement central de l'armée américaine. Des drones et des avions menaient des raids notamment contre des dépôts d'armes et des lance-roquettes près de Ain al-Arab. Le Parlement turc doit se prononcer ce jeudi sur une action militaire du pays contre l'État islamique.
Des kamikazes talibans ont ciblé des soldats à Kaboul, la capitale afghane, tuant au moins 7 personnes et faisant plus de 15 blessés. Les talibans ont revendiqué cette attaque. Ils ont dit à l'AFP que c'était un message clair au gouvernement pour avoir signé l'accord sécuritaire avec les États-Unis.
En effet, Douanian, les États-Unis vont garder pendant une décennie encore des milliers de militaires en Afghanistan au terme d'un accord signé hier. C'était la première décision majeure publique du nouveau président Ashraf Ghani. Cet accord sécuritaire bilatéral, dont la signature avait été retardée, permettra à 10 000 militaires et civils américains et quelques 2 000 autres éléments de l'OTAN de rester dans le pays après le 31 décembre, la date butoir originale pour le départ des troupes internationales. Le nouvel accord autorise la coalition à continuer à entraîner les forces de sécurité afghanes et cibler les opérations d'Al-Qaïda dans le pays.
L'homme qui a décapité la semaine dernière une de ses collègues dans l'Oklahoma, le sud des États-Unis, a été inculpé de meurtrière et pourrait risquer la peine de mort ici à Kaba.
Les procureurs doivent encore décider s'ils vont demander la peine de mort. Selon Greg Mashburn, procureur du comté de Cleveland, il revient au FBI de déterminer si l'agression peut être qualifiée d'attaque terroriste. Alton Nolan, 30 ans, parlait en arabe pendant qu'il décapitait sa victime. Jeudi dernier, dans la petite ville de Moore, en Oklahoma, il venait d'être licencié à cause d'une dispute raciale. Il est rentré chez lui, s'est emparé d'un couteau de cuisine avant de revenir devant l'usine où il a tué sa collègue Colleen Hufford. L'assaillant a finalement été arrêté par le directeur de l'entreprise, un officier de police réserviste qui a dû recourir à une arme à feu. Nolan est toujours hospitalisé, mais se verra notifier officiellement les accusations dès qu'il sera en mesure d'être placé en détention.
Voilà pour le journal. Merci à Georges Léonard Sagnot, Washington, La Voix de l'Amérique. Les orphelins de l'Ebola sont une autre facette de la crise qui dévaste l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'ils ont la chance de survivre, ils sont rejetés par les familles et communautés par peur de contagion et abandonnés à eux-mêmes. Les précisions de Michel Joseph.
Selon l'UNICEF, ils sont au moins 3700 enfants guinéens, sierra-léonais et libériens à avoir perdu au moins un parent dans l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Selon l'UNICEF, ce chiffre, qui représente le bout de l'iceberg, pourrait doubler d'ici la mi-octobre. Souvent, les enfants vont avec leurs parents malades dans les centres de traitement et si les parents meurent, il est difficile de trouver quelqu'un pour s'occuper de leur progéniture. Manuel Fontaine, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
The issue still remains very much stigma. For example, we've had a case recently of a young 4-year-old boy who was in this situation. We had found
La question demeure essentiellement celle de la stigmatisation. Par exemple, nous avons eu récemment un petit garçon de 4 ans dans cette situation. Nous avons trouvé un survivant pour s'occuper de lui, mais c'est la communauté qui a rejeté l'enfant. Une formule trouvée par l'UNICEF est de confier ces orphelins de l'Ebola à des survivants pour au moins 21 jours, la durée de la période d'incubation. Après cela, des solutions à long terme devront être trouvées. Manuel Fontaine a annoncé que le ministère sierra-léonais des Affaires sociales et l'UNICEF organiseront une conférence sur la question à la mi-octobre.
Les survivants, à ce moment, sont en train de se réunir dans une forme de network, which is very positive. They're really trying, I think, partly because they need to try to help each other. Survivors also suffer.
Les survivants, pour le moment, tentent de se regrouper dans une sorte de réseau, ce qui est très positif. Ils essaient vraiment, en partie, parce qu'ils ont besoin de s'aider les uns et les autres. Bien qu'ils soient protégés contre l'Ebola, ils souffrent de stigmatisation lorsqu'ils retournent dans leur communauté. Au cours des 6 prochains mois, l'UNICEF formera plus de 2500 survivants de l'Ebola en Sierra Leone et viendra en aide aux enfants dans les centres d'isolement. Des efforts sont déployés pour réunir certains avec leurs parents, a indiqué Manuel Fontaine. Au Liberia, l'agence onusienne aide le gouvernement à former 400 autres agents de santé mentale et travailleurs sociaux. L'UNICEF et ses partenaires envisagent aussi d'assurer un soutien psychologique à quelque 60 000 enfants et familles vulnérables dans les communautés affectées par l'Ebola.
En République démocratique du Congo, ouverture ce mercredi à Beni, dans la province du Nord-Kivu, du procès Mamadou Ndala, du nom de l'ancien commandant du 42e bataillon commando des unités de réaction rapide de l'armée congolaise assassinée le 2 janvier dernier. Au programme, la comparution de 47 témoins et d'une dizaine de détenus. L'objectif est de tirer au clair cet assassinat 9 mois après. Reportage de Joël Zima, journaliste à Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Les audiences foraines débutent mercredi à Beni, ville située au nord de la province du Nord Kivu. Les magistrats de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu séjournent depuis lundi dans cette ville qui est déjà mobilisée. 47 témoins et renseignants, mais aussi une dizaine de présumés assassins vont défiler à la barre. Ces audiences vont durer 30 jours. Le colonel Joseph Mukago est le premier président de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu.
Nous sommes venus pour examiner le cas de présumés auteurs de l'assassinat du général Mamadou et de ses deux gardes du corps. Nous avons prévu 18 audiences, que la population vienne nombreuse assister à cette audience pour que tout équivoque soit levé à la fin.
Du côté de la société civile, on appelle les magistrats à dire bon droit pour faire éclater la vérité sur les circonstances qui ont entouré la mort du général Mamadou Moustapha Ndala. Gilbert Kambale est le président de la société civile de la ville de Beni.
Ça fait 9 mois que nous attendions ce procès qui est finalement arrivé. Nous voulons attirer l'attention de la cour militaire opérationnelle que la population voudrait qu'il y ait quand même un éclaircissement sur les circonstances dans lesquelles le colonel Mamadou Ndala était assassiné.
Le colonel Mamadou Moustapha Ndala, promu général après sa mort, a été assassiné le 2 janvier 2014 à la sortie de la ville de Beni lors d'une mission de repérage qui avait pour objectif lancer un assaut contre les miliciens ougandais des ADF. Depuis Kinshasa, Joël Zima, Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
À partir du 1er octobre, en Mauritanie, les employés et autres travailleurs ne seront plus en week-end les vendredis et samedis, mais bénéficieront de ce qu'on appelle le week-end universel, le samedi et le dimanche. La décision a été prise en Conseil des ministres par le gouvernement, une harmonisation qui, selon le ministre du Travail, va permettre aux opérateurs économiques et administratifs qui sont liés à l'étranger d'améliorer leur compétitivité. Le nouveau week-end suscite cependant une vive polémique dans le pays. Reportage de Brahim Dia.
Il est clair que le fait de ne pas être au même niveau que nos partenaires économiques nous cause des pertes énormes, a déclaré le ministre du Travail Seydina Ali Oul Mohamed Rouna. Sur l'ampleur de ces pertes économiques, le ministre n'a fourni aucune donnée chiffrée. La justification économique de l'adoption du week-end universel est défendue aussi par certains cadres de l'administration mauritanienne. Taqi Oul Cheikhna est expert comptable et financier.
Nous pensons que ce changement est positif dans la mesure où il pourra justement aider la Mauritanie à réaliser un gain de 20% de temps de transaction avec l'international, un impact positif sur la croissance économique dans son ensemble. Donc ce qui veut dire que ce décalage de week-end de la Mauritanie par rapport au week-end universel en fait, a pénalisé beaucoup de gens, et sur le plan économique et sur le plan social aussi.
Ahmed, enseignant, âgé d'une trentaine d'années, conteste lui la pertinence économique de la mesure.
Les passages au nouveau week-end, je trouve ça inutile parce que ça change rien. Parce que travailler 4 heures les vendredis, on ne gagne pas beaucoup de temps par rapport aux autres marchés qu'on est censé gagner. En plus, faire la journée de 9 heures continue, c'est irréalisable, ce n'est pas réaliste.
Au-delà de la question de la rentabilité économique du nouveau week-end, il y a un débat religieux qui s'est instauré. Pour le parti RFD, Rassemblement des Forces de Progrès, parti d'opposition, il considère que la décision de passer week-end, samedi et dimanche, est une atteinte au sentiment de tout musulman soucié de la préservation de ses croyances sacro-saintes et de ses acquis culturels. Les arguments religieux en faveur du repos le vendredi ne sont pas partagés par tous. Kissima Diagana, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Tribune.
Nulle part dans les textes, en tout cas religieux, il n'est recommandé aux musulmans d'observer le vendredi en particulier comme jour férié. Par ailleurs, du point de vue de l'histoire du monde musulman, il n'est inscrit nulle part que des jours fériés ont été observés pour les travailleurs.
Il est cependant des citoyens qui trouvent ce débat superflu. Vendredi ou dimanche, l'essentiel c'est de travailler et de lutter contre l'absentéisme et les dysfonctionnements de l'administration, dit ce citoyen. Brahim Dia à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
De nos jours, c'est mieux de vieillir en Norvège que par exemple en Afghanistan. C'est ce qu'affirme l'indice établi par l'ONG HelpAge International qui se focalise sur le troisième âge. L'ONG note que la planète va ajouter des centaines de millions de vieillards au cours des prochaines décennies, ce qui présentera un défi immense pour les services de santé publique et le gouvernement, mais également pour les particuliers, du fait que nombre de pays n'ont toujours pas établi de régime de retraite. Le patron de HelpAge International, Toby Porter, évoque certains de ces défis.
Je pense que les tendances sont claires, que c'est toujours mieux d'être âgé en Europe et en Amérique du Nord et en Australasie que dans le monde en développement. Cette année, en 2014, c'est la Norvège qui est numéro 1 sur notre index et le numéro 96, le pire en ce moment, c'est l'Afghanistan.
Vous notez également dans votre rapport des progrès du côté des retraites.
Le rapport de cette année porte surtout sur la situation financière des personnes âgées. Et nous disons à HelpAge International qu'une préoccupation principale d'une personne âgée, c'est si ou non ils ont suffisamment d'argent pour satisfaire le besoin immédiat et avoir une dignité minimum. Et en 2050, il y aura plus de 2 milliards de personnes âgées de 60 ans ou plus. Mais pour l'instant, malheureusement, une proportion trop petite de cette population a accès à une retraite. On voit dans le monde actuellement qu'il y a quelques pays comme la Chine, comme le Mexique, comme le Népal, comme la Thaïlande qui ont récemment introduit une retraite universelle pour la population. Et on voit beaucoup d'impact positif de ces politiques. Mais on voit aussi des autres pays qui sont riches et qui n'ont pas encore introduit ce genre de politique.
Répondant aux questions de Camille Grodillier, Toby Porter, patron de HelpAge International. Et maintenant, les sports avec Timothée Donangmaï. Suite des mondiaux de basketball féminin en Turquie où les États-Unis se sont qualifiés hier pour les quarts de finale.
Eh oui, Idrissa, les Américaines, championnes olympiques, ont livré un autre beau match hier, écrasant les Angolaises par 119 à 44. Également en quart de finale, l'Australie, victorieuse du Bélarus 87-45. La Turquie, pays hôte, est en quart aussi, ayant défait hier le Mozambique par 64 à 54. Autre quart de finaliste, l'Espagne qui a battu la République tchèque 67 à 43. Cuba qui a battu la Corée du Sud 73-57 affronte aujourd'hui la Serbie pour une place en quart de finale. La Chine a perdu de justesse hier face à la Serbie 65-63 mais a encore une chance d'avancer en quart de finale en affrontant aujourd'hui le Bélarus. À noter aussi que la France joue contre le Brésil et le Canada contre la République tchèque aujourd'hui pour accéder en quart de finale de ces mondiaux féminins de basketball en Turquie.
Football européen, deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions hier. Le Bayern de Munich s'est imposé hier soir par 1-0 à Moscou.
Face au CSKA local, le club bavarois a fait l'essentiel sur un pénalty converti par Müller. Ambiance étrange dans le stade de Moscou hier puisque la rencontre s'est jouée à huis clos suite à une sanction de l'UEFA datant de décembre. Autre résultat d'hier soir, Paris est resté maître sur sa pelouse, battant Barcelone par 3-2. Shakhtar Donetsk a défait Porto 2-1. Le Sporting a battu Chelsea 1-0.
Élection mouvementée hier à la tête de la Fédération nigériane de football.
menacée de sanctions par la FIFA pour gestion controversée, la Fédération nigériane a porté son choix hier sur Amadou Pinnick après disqualification de l'homme d'affaires Shehu Diko, pourtant en tête du scrutin organisé hier à Wari dans le sud du pays. Il faut dire que ce scrutin a été retardé lorsque les services de renseignement ont interpellé l'organisateur, Samson Ebomé. À son retour dans la salle, Ebomé a annoncé à la presse la disqualification du favori Shehu Diko pour, a-t-il dit, absence durant le vote. Amadou Pinnick a donc été élu avec 32 voix sur 44.
Le Zimbabwe est candidat à l'organisation de la CAN 2017.
Et oui, la Fédération zimbabwéenne a officiellement soumis la candidature du pays lundi avant la date limite fixée au 30 septembre. La Libye, initialement retenue pour abriter la CAN 2017, a jeté l'éponge du fait de la longue crise qu'elle traverse, ce qui a amené la CAF à reprendre la procédure d'attribution. L'Éthiopie avait annoncé son intention de se porter candidate pour la CAN 2017 et d'autres pays s'étaient dit intéressés.
On passe à la musique de Roger Muntu. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Né à Bamako au Mali, Baba Sissoko est resté le maître incontesté du tamani, tambour parlant qu'il a appris à jouer au cours de son enfance grâce aux enseignements de son grand-père Djeli Baba Sissoko. Excellent multi-instrumentiste, il joue également le ngoni, le kamalengoni, la guitare, le balafon, la kalebasse et le steel drum. Sa nouvelle chanson ce matin, Ebi.
Baba Sissoko a donné à son nouvel album Chiwara le nom d'un petit masque bambara qui est attribué en récompense à la fin de la saison des pluies à celui qui a mieux travaillé que les autres au chant.
Oui, Idrissa, cet artiste adore chanter et parler de ses traditions. Sa capacité à jouer un large éventail d'instruments et sa sensibilité extrême envers autres genres et autres expressions musicales l'a amené à collaborer avec de nombreux musiciens de renommée internationale comme Habib Kouaté, Rokia Traoré, Ibrahim Ferrer et beaucoup d'autres. Idrissa.
Baba Sissoko, Ebi. Merci Roger.
De rien Idrissa, bonne journée et merci à nos auditeurs de Brazzaville pour leur fidélité à la VOA.
Retrouvez Roger Muntu dans le RM Show à 20h temps universel. Le Monde aujourd'hui en direct sur la Voix de l'Amérique. En direct de Washington. Avant de se séparer, un rappel des titres avec Georges Léonard Sagnon.
Premier cas d'Ebola diagnostiqué aux États-Unis, un Texan qui a été infecté au Libéria. Un groupe de pushits amnistiés par le président bissau-guinéen. Ouverture aujourd'hui à Beni, dans le Nord Kivu, du procès Mamadou Ndala. En Algérie, les autorités disent avoir identifié des auteurs de l'enlèvement et de la décapitation du Français Hervé Gourdel. En Libye, les milices en charge à Tripoli et Benghazi dénoncent le dialogue initié par l'ONU pour mettre un terme au chaos. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie campent sur leur position pendant que les autorités célèbrent le 65e anniversaire de la Chine communiste. La Grande-Bretagne a mené hier ses premières frappes aériennes contre des cibles de l'État islamique en Irak, doyen Idrissa Chedidia.
Merci à Georges Léonard Sagnou pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Chedidia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.